Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tours 99.5 FM ou sur radiocampustours.com. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 février, il est 14h et nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale autour du journalisme, de sa méthode, mais aussi de son enseignement. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio le journaliste Didier Desormeaux, qui est donc journaliste et formateur aussi de journaliste. Et il est aussi docteur en sciences de l'information, auteur du livre « Des faits à l'info, le journalisme à l'usage de tous », qui est coécrit avec Brigitte Bess et qui est paru aux éditions Edisens le 13 octobre 2021.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de Radio Campus Tours. Et puis pour co-animer cette émission, on retrouve avec moi en studio Mélissa, qui est elle aussi journaliste, que vous pouvez notamment retrouver sur les ondes de Radio Campus Tours dans la Méridienne, de 11h à midi, du lundi au vendredi. Bien, merci Mélissa d'être avec nous en studio.
Bah, merci de m'inviter, merci.
Alors pour introduire notre dialogue, nous pouvons partir d'un constat. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous avons produit autant d'informations, télévision, radio, journaux, réseaux sociaux. Nous sommes noyés sous les flots d'un marché de l'information dérégulé. Tout le monde est aujourd'hui acteur de l'information par partage, like et retweet de contenu, qu'ils servent ou non la vérité, nous y reviendrons. Et donc peut-être pour situer un petit peu le cadre de notre discussion, comment on pourrait définir tout simplement un journaliste aujourd'hui, même si c'est une question peut-être un peu vague?
Oui, vous avez parfaitement défini la situation d'aujourd'hui en matière d'information. C'est comme si on remplissait ce studio de caisses et de caisses de Lego, et que il fallait les trier, peut-être mettre les rouges, les jaunes, les bleus d'un côté pour les remettre après dans des cases pour après pouvoir évoluer dans ce studio. C'est-à-dire que le rôle du journaliste aujourd'hui, il est, je veux pas dire qu'il est là pour mettre de l'ordre, parce que ça serait malvenu comme phrase, mais je pense qu'il est là pour essayer de donner une vision à peu près claire de la situation d'aujourd'hui en matière de production d'informations, et c'est à lui de filtrer, de classer, de hiérarchiser, et d'après son point de vue, et en étant clair que c'est son propre point de vue, de donner un sens à tout ce qui se passe autour de nous. Mais vous avez parfaitement décrit la situation. Je crois qu'on n'a jamais dans l'histoire de l'humanité eu autant d'informations au quotidien.
Et donc on est dans une situation quand même assez complexe. Et le journaliste est justement aussi amené aujourd'hui à travailler sur plein de supports différents finalement.
Exactement.
Parce que c'est aussi l'objet, on y reviendra, mais de votre livre.
Oui, il y a aujourd'hui on demande aux journalistes, quand la société... destine finalement cette mission à un corps qui s'appelle les journalistes. Le but, la finalité, c'est bien effectivement de pouvoir s'exprimer sur tout un tas de supports, ceux qui n'existaient pas auparavant, comme évidemment Internet, tous les réseaux numériques, mais aussi sur les réseaux, sur les supports classiques. Donc ça, c'est une véritable exigence, c'est-à-dire qu'un journaliste, il doit... Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? C'est un vrai débat aujourd'hui dans la profession. Est-ce qu'il doit être multi-support? C'est effectivement une bonne question. Il doit se battre contre le temps aujourd'hui. C'est une variable qui est aussi très, très prenante. Et puis, il est surtout aujourd'hui en concurrence avec tout un tas de sources d'informations qui arrivent directement auprès du public, et ce qui est une situation là aussi tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait auparavant.
Alors, puisque vous citez ces autres producteurs de contenu, donc qui ne sont pas journalistes, avant de parler d'eux, peut-être une question sur justement l'avenir des journalistes, puisque lors des dernières assises du journalisme de Tours, où nous vous avons croisé, il se trouve que Jean-Marie Charon, donc, qui est sociologue et chercheur sur les médias, l'information et le journalisme associé à l'EHESS, est venu parler d'une étude qu'il a produite sur les journalistes qui quittent la profession. Voilà. Donc pourquoi ces journalistes cessent de pratiquer ce métier? Peut-être avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire de ce travail de Jean-Marie Charon?
Toute cette investigation de Jean-Marie Charon auprès de l'état d'esprit aujourd'hui des personnes qui rentrent dans le métier, ça correspond, les conclusions provisoire, évidemment, parce que c'est un travail qui est en cours. Hein. Je crois qu'il est en plein dedans et il y aura bientôt une restitution de tous ces travaux. Je crois que les raisons de cette situation tiennent exactement à ce qu'on vient de dire auparavant, c'est-à-dire le côté indispensable d'être polyqualifié, ça c'est une chose, le temps, la concurrence avec les autres et des rédactions très inadaptées à cette nouvelle situation, puisque je crois que Jean-Marie Charron pointe bien également les problèmes de management au sein des rédactions qui posent aujourd'hui problème, puisque on ne produit plus de l'information sur des modèles tels qu'ils étaient auparavant. Et ça pose un vrai problème, y compris générationnel, puisque jusqu'à maintenant, c'était on va dire, l'ancienneté qui donnait finalement de l'autorité. Et aujourd'hui, on peut très bien, et moi j'ai vraiment vécu au sein des rédactions dans lesquelles je suis passé, on peut très bien voir des jeunes journalistes plus habiles, plus compétents sur les technologies que les anciens qui ont l'expérience. Donc l'équilibre, il s'est un peu brisé de ce point de vue. Et beaucoup de jeunes journalistes qui arrivent autour de la trentaine sont déçus et quittent la profession. Et ça, c'est effectivement préoccupant, puisque paradoxalement, on a de plus en plus besoin de journalistes.
Alors vous citez les jeunes journalistes qui quittent la profession, hein, c'est parmi les trois catégories qui sont identifiées par Jean-Marie Charron, donc les jeunes journalistes, les journalistes femmes qui ont vers 40 ans et les journalistes qui ont plus de 50 ans. Et donc peut-être on peut mentionner aussi que cette défection, elles sont dues au fait que c'est un métier qui se précarise.
Absolument. Alors ça, c'est, je ne l'ai pas cité, vous avez tout à fait raison. Il y a la question du statut du journaliste dans la société et du statut dans le travail, hein, c'est-à-dire dans sa rémunération et la possibilité qu'il a d'évoluer à l'intérieur d'une structure. Et ça, effectivement, ça c'est un point important, puisque le métier s'est beaucoup dégradé en termes de reconnaissance dans les entreprises. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Si on prend le reportage était une valeur très très forte au sein des rédactions. Il l'est toujours, bien entendu, je ne veux pas exagérer. Mais c'est vrai que du fait du travail en desk, et aussi, on peut dire d'une certaine manière, de la polyqualification, il y a eu une dégradation de cette dimension qui donnait tout le sens au métier. Et ça, c'est une variable importante. Vous avez raison, côté pour les femmes, il y avait un état d'esprit dans les rédactions qui était, on va dire, assez archaïque jusqu'à maintenant, et que beaucoup de consoeurs et de jeunes consoeurs ne supportent plus cette espèce d'ambiance qui peut toujours régner, survivre à l'intérieur des rédactions et qui rend l'exercice du métier très difficile. Ça, il y a pas de doute. Donc il faut rajouter ces deux paramètres-là, oui.
Donc c'est-à-dire qu'il y a cet empilement déjà de choses à savoir pour les aspirants journalistes. Et donc là, je tourne vers notre aspirant journaliste, Maxime. Donc peut-être tu avais des questions à poser à notre invité sur comment on devient journaliste.
Effectivement, tout simplement, il y a un parcours. Est-ce que tout simplement vous pouvez nous expliquer s'il y a un parcours, une voie royale pour devenir journaliste, ou alors si c'est un métier que l'on peut atteindre par différents biais, différents moyens?
Oui, alors c'est toujours une profession ouverte, hein. Ça c'est une chance quand même pour cette profession, elle est ouverte, c'est-à-dire que c'est pas comme faire de la médecine, alors c'est sa chance et sa fragilité simultanément, hein. Sa chance c'est que n'importe qui peut devenir journaliste, peut publier, c'est une donnée fondamentale dans la société française, hein, qui est quasiment établie dans la Constitution, c'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a droit à la parole, etc. Ça, c'est important. En même temps, pour arriver à progresser et en faire un métier et en vivre, être professionnel, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Je dirais qu'il est relativement facile d'être ponctuellement journaliste, ou de vivre un certain temps des expériences de journalisme, y compris en créant des, ce qui est toujours possible, hein, bien entendu, et aujourd'hui ça l'est vraiment avec les outils numériques. Mais si on veut rentrer dans un média, on va dire un grand média qui va vous donner une certaine assurance au niveau de vos revenus, de votre statut, là, la voie royale, ça va être de faire des études de journalisme dans une école reconnue. Donc là, effectivement, la porte est nettement plus étroite, le chemin est un peu plus difficile, disons qu'il exige une motivation un peu à toute épreuve. Sachant que auparavant, on demandait beaucoup... On demandait une tête bien remplie. avec beaucoup de bachotage pour rentrer dans les écoles de journalisme, qui était difficile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait appel à des qualités qui sont quand même plus ouvertes.
Alors justement, il y a 14 écoles reconnues. Quelle est la différence principale entre ces écoles reconnues et il y a des écoles privées aussi, je suppose, oui, qui enseignent le journalisme?
Alors, il y a en gros un peu plus de 100 formations au journalisme. Entre les... Alors, il y a 14 écoles reconnues, donc on va dire qu'il y en a à peu près 90 ou 100 qui ne sont pas reconnues en tant que telles. Ça peut être au sein des universités, au sein des instituts d'études politiques et quantité de formations à caractère privé qui appartiennent à des établissements privés. La différence entre ces établissements non reconnus et les reconnus, c'est-à-dire que les établissements reconnus ont passé des conventions avec la profession. Et c'est deux ensembles, la profession et l'université. Enfin, il n'y a pas que l'université. Il y a également des écoles privées reconnues, bien entendu, dans les 14. Il va y avoir des accords d'intégration avec des exigences en termes de qui enseigne, quel est le contenu. Et ça, c'est répertorié au sein d'un référentiel, hein, de critères et de référentiels qui sont en accès public, hein, d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de la CPNJ, hein, la Commission paritaire nationale pour l'emploi des journalistes, ou la conférence des écoles des journalistes, des écoles de journalisme. Et là, à ce moment-là, on voit à peu près qu'est-ce qui est attendu par la profession. En fait, c'est ça, là. Ces écoles-là répondent aux attendus de la profession. Et l'intérêt pour un étudiant, c'est d'accéder beaucoup plus rapidement, parce que la période de stage est plus courte, et on est vite intégré sur des grilles qui sont quand même plus intéressantes quand on rentre, sans compter le réseau que ça peut créer, les relations que ça peut créer par ailleurs.
Donc au niveau de la pratique, il y a donc un socle commun à ces écoles de journalisme.
Oui, il y a un référentiel commun, un socle. Alors chaque établissement est libre de faire...
Elles ont des identités propres aussi, ces écoles?
Absolument, ce sont des identités... Oui, elles ne se ressemblent pas du tout, hein, entre Sciences Po, journalisme, et puis l'école de journalisme de Toulouse, ou l'IJBA, ou le CUEJ, ou... chacune a sa personnalité, sa forte personnalité. Ce qu'elles ont en commun, ce sont des référentiels d'enseignement avec des exigences qui sont exigées par la CPNJ. Mais chaque établissement, et c'est à chacun, chaque étudiant, d'aller vers le parcours qui l'intéresse, sachant qu'en plus, on peut rentrer aussi bien au niveau bac qu'au niveau bac plus 2 ou au niveau master. Voilà.
Alors Didier Desormeaux, vous disiez tout à l'heure qu'il y a d'autres qualités qu'un savoir théorique incroyable pour entrer dans ces écoles. Alors c'est-à-dire, quelles qualités vous pensez? Et est-ce que ces qualités-là, elles permettent en tout cas d'espérer avoir des candidats avec des profils, disons, à capital culturel et économique un peu différents?
Oui, alors ça c'est un débat de fond qui anime les responsables d'établissements reconnus, c'est sur quels critères on va accueillir toutes les personnes qui veulent faire du journalisme. Et d'une certaine manière, la pandémie a un peu modifié la règle du jeu. Auparavant, il y avait des concours où il fallait vraiment... bachoter, il fallait vraiment accumuler, c'est un peu comme rentrer à Sciences Po, il fallait avoir une culture générale très très large, et le recrutement se faisait essentiellement à partir des anciens de Sciences Po ou de Cagnes et d'Hippocagne. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il y a moins d'exigences, mais en tous les cas, il y a des qualités de créativité, d'ouverture d'esprit, jusqu'à l'engagement qui sont bien valorisées et qui sont recherchées. Du fait même que, d'abord, on est dans un monde médiatique qui est extrêmement mouvant, extrêmement volatile en même temps. Donc, il faut vraiment avoir des capacités d'adaptation qu'il faut repérer dès le départ avant de rentrer dans la formation, sinon on risque d'être déçu, ce qui n'empêche pas d'être déçu. D'ailleurs, vous avez cité l'étude de Jean-Marie Charon. Mais enfin, globalement, on peut dire qu'il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à cette précarité. Et en même temps, il y a toujours une grosse exigence en termes de culture générale. Pour vous donner une idée, sur les dossiers, une école comme... En gros, on va dire qu'il y a 1000 candidats. En moyenne, il y a 1000 candidats pour 40 places à peu près, hein, 40 ou 50 places.
Alors, c'est comment dire, le journaliste, c'est quand même un métier où il y a aussi, disons, quelque part, un secret professionnel et une dimension éthique. Alors, pour le coup, cette disposition éthique, c'est pas peut-être quelque chose qui s'apprend de façon évidente. Alors, est-ce que cet état d'esprit, c'est aussi une de ces, j'allais dire, soft skills, mais du coup, qui peut être cherché pour entrer en école de journalisme?
Oui, alors... pour entrer dans une école de journalisme, généralement, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est sur dossier, avec un certain nombre de travaux qui sont demandés, de créativité. Mais deuxième étape, et c'est là que ce que vous venez de décrire peut être repéré, c'est un oral. Un oral, alors, soit en présentiel, il y a encore, je pense qu'il y a des établissements qui vont revenir sur le présentiel, ou à distance, sur Zoom, ou un autre procédé, et c'est là qu'il y aura des interrogations, il y aura des grilles d'interrogations pour savoir effectivement quel est le système de valeur de la personne qui est en soi. Est-ce que, vous avez raison, c'est un problème d'éthique, enfin, c'est un problème de responsabilité. C'est un problème de se dire, c'est pas un métier comme un autre, ce que je pense profondément, on a souvent l'habitude de dire que c'est plus une mission qu'un métier, parce que c'est un engagement par rapport à la société pour se dire « faites-moi confiance, ce que je vais vous dire, je vais appliquer des techniques et des méthodes qui sont éprouvées, qui sont cadrées par la justice, qui sont cadrées par par la déontologie de la profession ou mon éthique personnelle. » Et ça, il faut le repérer tout de suite pour éviter d'avoir effectivement des gens qui ne se rendent pas compte de cette dimension, et là, ça peut être catastrophique. Ceci dit, s'ils ont des faiblesses à ce niveau-là, mais s'ils rentrent quand même, je pense qu'au bout de 2 ans, puisque c'est le minimum exigé par ces accords de reconnaissance professionnelle, en 2 ans, je pense que s'ils ne l'avaient pas au départ, ils l'auront à la fin. Enfin, du moins, on peut l'espérer.
Alors, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour acquérir ces compétences-là?
Ben, pour faire l'acquisition, il y a deux... Ces écoles, alors justement, surtout les écoles reconnues, il y a une exigence de moyens, donc il faut avoir les outils qu'il faut pour pouvoir produire, et des exigences en matière d'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances, elle va se faire de manière assez classique. Hein. Voilà, c'est une approche du droit qui va être très, très importante. Il faut bien connaître les textes qui organisent la profession, et que ça faut sortir en sachant ce que c'est que l'injure, la diffamation, le secret des sources. Tout ça, c'est un environnement, enfin, c'est un enseignement qui va être donné de manière assez traditionnelle, assez classique, et puis énormément de travaux pratiques avec des outils qui sont comparables à ceux qu'on va trouver dans la profession. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un va-et-vient entre l'apprentissage des connaissances et l'expérience. Et je crois que c'est de cette fusion-là qui fait que on arrive à la fin à un profil convenable, disons, pour pouvoir rentrer dans une rédaction et traiter des sujets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus... complexe et engageant, ça c'est sûr. Mais c'est un ensemble, hein. On ne peut pas dire il y a tel ou tel type d'enseignement précisément.
Alors une dernière question, et comment dire, pour les candidats malheureux au concours, il y a une autre possibilité peut-être d'avoir ces diplômes reconnus par la profession, c'est la VAE, la validation. Absolument. Des acquis de l'expérience. Alors est-ce que vous voudriez dire un mot sur ces VAE?
Ça, c'est une véritable chance. Hein. Les VAE se développent de plus en plus, et justement, y compris les écoles reconnues se sont engagées dans tout ce qui est, formation tout au long de la vie, pour donner une opportunité, une chance, à un moment ou à un autre, de pouvoir rentrer dans la profession sans être passé par le cursus qui est malgré tout assez long, qui est un cursus de 2 ans, qui est exigeant, qui est à temps plein. On peut pas travailler en même temps... dans un restaurant et en même temps être journaliste. On peut effectivement faire du journalisme, mais c'est quand même très prenant. Donc la VAE, c'est la reconnaissance d'une activité qui est voisine avec celle du journalisme, qui peut même être du journalisme ou voisine, mais qui n'a pas été identifiée comme telle, mais qui peut être valorisée pour arriver à un niveau équivalent à celui qu'on peut avoir en décrochant un diplôme au bout de 2 ans de manière en formation initiale. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une très belle opportunité qui est nouvelle. Et je vois à France Télévisions où j'ai travaillé jusqu'il y a quelques mois, on était très sensible à ça et on faisait des VAE régulièrement. Alors, C'est un cadre qui est assez contraignant. Hein. C'est pas juste envoyer comme ça la photocopie d'un contrat de travail. Il faut souvent rattraper des matières. Hein. Il faut souvent des matières, justement, je pense en droit, où là, si on a des faiblesses, il faut absolument les rattraper, les compenser, et pour arriver à un niveau équivalent, c'est-à-dire que la différence avec une formation initiale, ça va être, on considère que l'apprentissage de l'expérience, il va être aussi valorisé que finalement dans un cursus initial où il y aura eu beaucoup moins d'expérience. Mais il faut parfois attendre 10 ans, hein, ça se fait pas. Mais il y a toujours cette opportunité, sachant et de toute façon, on peut avoir la carte de presse, même sans avoir fait une école de journalisme, il faut quand même bien le répéter et le dire. Si vous avez du talent, si vous avez la niaque pour faire du journalisme, eh ben vous en faites. Hein, y a pas. Mais c'est vrai que ça peut être long, ça peut être laborieux. Et puis le danger quand on rentre trop vite ou qu'on est impatient et qu'on veut pas faire une école, c'est qu'on soit bloqué dans une filière. Alors que l'avantage d'une école, c'est comme les écoles de cinéma, ça vous donne accès à différents genres, à différents types de productions. Ça vous ouvre l'esprit à plein de possibilités d'expérience et ça vous ouvre l'esprit en vous mettant en contact avec des gens de profils extrêmement différents, des professionnels qui vont comme ça vous construire.
Eh bien, avant de continuer cette discussion passionnante et d'évoquer plus précisément peut-être la méthode qui est d'ailleurs au centre de votre ouvrage, on se fait une petite pause musicale, on s'écoute un petit peu de jazz avec le titre Crax du groupe District 5 et on se retrouve juste après. Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel Sortez et nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission pour parler de journalisme aujourd'hui avec Didier Desormeaux qui est auteur du livre Des faits à l'info, pardon, Le journalisme à l'usage de tous. Et donc on a déjà évoqué dans cette émission eh bien, comment pouvait-on devenir journaliste. Voilà, vous nous avez détaillé un petit peu tous les parcours possibles et envisageables. Alors comme je vous le rappelais, le titre du livre s'appelle « Des faits à l'info, le journalisme à l'usage de tous ». Alors donc il ne s'adresse donc pas forcément qu'aux journalistes, et donc peut-être c'est intéressant de se pencher sur justement à quel public il se destine. Il y a peut-être une ambiguïté aujourd'hui sur les non-journalistes, les influenceurs, les youtubeurs, les podcasteurs. Comment peut-on faire du journalisme alors avec ce public-là?
Oui, c'est exactement relié à ce que nous avons vu dans la première partie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au journalisme, donc tout le monde pense pouvoir faire du journalisme dès l'instant où on a cette possibilité de diffuser. On aurait plutôt dit autrefois publier, mais aujourd'hui on peut diffuser et on peut avoir cette idée, alors je ne veux pas dire cette prétention, mais cette ambition de vouloir faire du journalisme sans en connaître automatiquement ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce métier, depuis 150 ans, c'est organisé, c'est forgé. Enfin, vous avez vu Les Illusions perdues, j'imagine. C'est un bon exemple de voir d'où vient le journalisme, hein, quand même, et quel parcours il a été fait depuis la première moitié du 19e siècle. Et comment il y a eu un certain nombre de règles, il y a eu des expériences bien heureuses, mais beaucoup de malheureuses, en termes de, y compris d'ambiguïté de la fonction de journaliste durant les guerres, ou la première guerre mondiale, la deuxième, tout ce tourbillon qui a été fait, l'ambiguïté entre information et communication. Et donc, l'ouvrage que nous avons fait, c'était précisément d'éclaircir tout ça et de dire, attention, on ne mélange pas tout. Le journalisme, c'est quand même un métier. Et s'il y a un métier, c'est-à-dire qu'il y a des techniques et des méthodes indispensables à connaître, et que si on ne les connaît pas, ok, on peut être un parleur sur Internet, on peut être un diffuseur, mais en aucun cas, on peut se prétendre journaliste. D'autant plus que si vous avez quelques ennuis avec votre public, la justice saura reconnaître votre aptitude à maîtriser justement toutes ces données de responsabilité.
Alors justement, sur la méthode, il y a un poncif peut-être qu'on entend souvent, le journaliste doit être objectif. Est-ce qu'il n'y a pas un flou là-dessus sur la méthode, sur finalement peut-être que c'est la méthode du journaliste qui doit être objective et pas forcément le journaliste, on est tous subjectifs.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un flou là-dessus, peut-être même du grand public, hein, sur ce que c'est la méthode finalement du journaliste?
Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire que la méthode doit faire preuve de neutralité. La méthode doit être la même pour tous, c'est-à-dire que recouper une info, n'importe qui doit pouvoir appliquer la même méthode. Vous avez raison, la subjectivité, elle est incarnée par chaque individu. Un journaliste a son histoire, sa sensibilité, ses convictions. Ça, c'est pas très grave, je dirais. Par contre, et c'est là où faut sans cesse réexpliquer sans doute au public, de dire que la méthodologie, elle doit être vérifiable, elle doit être observable, elle doit être alors neutre d'une certaine manière, parce que quand on recoupe une info, c'est tout simplement, j'ai une information, et ben je téléphone ou je vais sur Internet et je vérifie si c'est vrai ou pas, tout simplement. Mais ça, c'est souvent méconnu, la base de la base. C'est pour ça qu'on a fait cet ouvrage, c'était de dire, on va essayer d'expliquer le plus clairement possible, c'est quoi les bases du métier, c'est quoi les bases juridiques, les bases en termes de pratiques au quotidien, quand on a affaire à un événement, quelles sont les phases par lesquelles il faut passer pour pouvoir en parler aux autres. Après, chacun le fait selon sa sensibilité, bien sûr.
Alors, est-ce qu'il vous semble juste de dire aussi que c'est les personnes qui produisent des contenus sans être journalistes? Et attention, hein, je précise qu'on n'est pas en train de dénigrer systématiquement ces personnes-là, il y a des contenus très intéressants aussi. Est-ce qu'il vous semble que ces producteurs de contenus se sont peut-être engouffrés dans une brèche laissée par les journalistes? On peut penser à des domaines comme par exemple tout ce qui est mode, beauté, automobile, alimentation. Est-ce que ça vous semble juste?
Alors, cette brèche-là, elle a été ouverte il y a bien longtemps déjà. Hein. Je crois que là, alors, ça c'est un débat interne à la profession, y compris auprès de la commission de la carte, hein, où toujours, à chaque fois qu'un organe de presse se crée, comment peut-on l'évaluer? Est-ce que c'est un organe de presse qui travaille pour l'intérêt général du public, ou bien est-ce qu'il ne fait que répondre à des sensibilités, ou même est-ce que c'est pas tout simplement un outil publicitaire, hein? Donc ce que vous évoquez là, c'est un débat déjà très ancien, j'irais même qui date quasiment de la création de la presse, dès l'instant où la publicité a pris une importance vraiment fondamentale, ou alors que des institutions s'emparent d'organes de presse, je veux dire d'institutions classiques qui ne faisaient pas la différence entre l'institutionnel et le journalisme. Donc cette question-là, elle est rémanente. Ce qu'il y a de nouveau, rémanente et ancienne, ce qu'il y a de nouveau, c'est cette possibilité que tout le monde a aujourd'hui de pouvoir diffuser ce qu'il a envie de dire, tout simplement. C'est-à-dire que il suffit de se déclarer télévision sur Internet et de créer sa propre télé. On a très peu d'outils de contrôle, parce que je dirais, dans un cadre classique, pour vous déclarer organe de presse, il y a quand même une commission, il y a quand même un certain nombre de filtres qui permettent d'apprécier l'authenticité de votre démarche. Après, vous créez une chaîne sur Internet demain sur YouTube. Qui va vous contrôler, qui va savoir, qui peut vous donner un degré de confiance? Là, ça devient nettement plus compliqué, puisqu'on peut s'autoproclamer journaliste. Et personne ne se gêne pour ça, parce que tout le monde s'autoproclame. Et surtout aujourd'hui, avec les mouvements, on va dire complotistes et conspirationnistes, tout le monde va faire de la réinformation en disant « c'est nous les véritables informateurs ». Et précisément, vous avez raison, c'est qu'ils investissent des domaines de la faute même des journalistes en général, avaient délaissé complètement que ce soit des domaines de la vie quotidienne qui n'intéressaient pas les rédactions, et ça, on le paie cher aujourd'hui, ça, c'est sûr.
Et alors, comment dire, est-ce que ça peut être aussi un indicateur, quand on voit par exemple des institutions qui font appel peut-être plus systématiquement à ces producteurs de contenu-là qu'à des journalistes?
Oui, ça c'est... Ça, c'est un... Oui, la notion de producteur de contenu et alors l'instance à laquelle j'appartiens, la Conférence nationale des métiers du journaliste et comme la CPNEJ, s'intéresse toujours à ça. Est-ce qu'on peut déclarer des nouveaux métiers comme ça, et puis les labelliser journaliste? Alors ça, c'est une source de tension là aussi qui a existé depuis toujours. Elle a existé par exemple à ce qu'un monteur peut être déclaré journaliste, hein, quelqu'un qui fait du montage. Ben non, on a dit non. Par contre, en presse écrite, quelqu'un qui fait de la mise en page, on va dire oui, c'est peut avoir la carte de presse. Donc c'est un débat pareil de classification des métiers, des activités, qui est ancien. À chaque fois qu'il y a eu de nouvelles technologies, la question s'est à nouveau posée. C'était le problème pour les caméramans. Hein. La fonction de journaliste reporter d'image, elle est venue très tardivement. Avant, et dans beaucoup de pays d'Europe d'ailleurs, toujours, ce sont des techniciens image, pas plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies numériques et la confusion qu'il peut y avoir entre le fond et la forme, c'est-à-dire la maîtrise d'une forme web, quoi. Savoir faire des pages, faire de la programmation, etc. Est-ce que c'est un métier de journaliste? Je pense que dès l'instant où la responsabilité est engagée, oui. Si ça reste un travail d'exécution, non.
Alors pourquoi il y a cet attachement au titre de journaliste? Parce que vous dites qu'il y a plein de producteurs de contenu qui se disent journalistes. Pourquoi c'est aussi important? Après tout, ça pourrait n'avoir aucune importance. Pourquoi vouloir se labelliser journaliste?
Se labelliser journaliste, c'est obtenir la reconnaissance de la société. On voit bien quand il y a eu les scènes de violence policière avec Dufresne, qui n'a pas de carte et qui se dit journaliste, et il l'est sans doute. Et c'est par rapport, il saute l'étape, il dit « je n'ai pas besoin de carte de presse, je suis journaliste, vous voyez, regardez ce que je fais ». C'est pas un bout de papier, parce que... Vous avez raison, on peut très bien avoir une carte de presse et avoir une activité très très éloignée de l'activité de journaliste, ça il n'y a pas de doute. Alors que quelqu'un va vraiment faire de l'enquête, ou même passer par lanceur d'alerte, va avoir ensuite une activité, ce qui arrive souvent, une activité de journaliste, va avoir du mal à obtenir sa carte de presse. Oui, ce sont les normes que se donne la société qui sont complexes à... qui sont complexes à définir. À chaque fois qu'une nouvelle technologie surgit, la question se pose, et en particulier avec le web, ça c'est sûr. Un smartphone aujourd'hui, c'est un outil journalistique. Qui aurait imaginé il y a quelques années qu'un téléphone pouvait vous donner accès à ce statut de journaliste? Mais il reste quand même la carte de presse qui est indispensable, qui, dès l'instant, je pense qu'on a des activités qui se prolongent, qui vous engagent dans votre responsabilité. Je pense que, de toute façon, il est indispensable de passer par la commission de la carte.
Alors, une dernière question. Je vais ressortir un autre vieux débat, de dire la fameuse confusion entre journalisme et communication. Ça existe, des personnes qui sont chargées de com' journaliste ou journaliste municipal?
Alors, sauf erreur de ma part, en presse municipale, la presse municipale n'a pas le statut de presse d'information générale. Il y a eu effectivement un démarrage.
Mais il y a des statuts, des gens qui journalistes.
Il y a eu des statuts, mais je crois que maintenant la commission de la carte ne les passe plus comme journalistes. Hein. Alors, dans le développement, dans les années en 80-90, il y a eu cette ambiguïté et des rédacteurs de presse municipale arrivaient à décrocher le statut de journaliste. C'est vrai. Mais après, c'est aux instances de faire leur boulot. Alors, c'est un lieu de tension. Il ne faut pas croire que ce sont des instances... les syndicats sont présents, les syndicats de journalistes sont là. Ils défendent des points de vue qui sont divergents. Les commissaires ne sont pas tous d'accord. C'est un débat qui est permanent au sein de la profession, et tant mieux d'ailleurs, parce que à mon avis il n'a pas fini, il ne s'est pas éteint, quoi. Il va y avoir aujourd'hui de plus en plus cette question qui se pose sur le statut. Je pense que malgré tout, tout le monde est attaché au statut de journaliste et de la carte de presse, même si effectivement Jean-Marie Charon le dit bien, il y a un certain flottement au niveau de l'attribution des cartes aujourd'hui en termes de nombre.
Alors moi, ça me fait penser à une autre réflexion, une autre question, parce que s'il ne suffit pas, donc, comme vous le dites, de sortir dans la rue, de filmer quelque chose sans méthode pour faire du journalisme et pour se déclarer journaliste, cela signifie que l'information de qualité est un bien, et donc elle doit être rétribuée peut-être à ce titre. On a peut-être trop l'habitude aussi d'avoir une information que l'on pourrait croire gratuite via Twitter, via... Plein de réseaux sociaux comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, là aussi, un lien avec la précarité du journalisme?
Oui, c'est l'économie du journalisme et des médias qui est en question. Il y a une ambiguïté complète qui vient depuis les gratuits qui se sont créés il y a une vingtaine d'années, qui ont laissé supposer que la presse était accessible. Voilà, c'est ça, métro, 20 minutes, etc. Et ça a pu faire croire que c'était une activité quasiment bénévole et que l'information, elle arrivait comme ça, il n'y avait pas de... voilà. Ça a été le début de la fin. Alors, c'est pas de la fin de la rémunération, parce que la rémunération, elle est là, mais elle n'est plus orientée vers les journalistes. Elle est orientée vers les plateformes, les organismes qui ont, on le voit bien aujourd'hui, qui font beaucoup d'argent, mais de manière masquée, puisque les revenus sont très importants, et en particulier d'ailleurs dans l'information, tout ce qui est tout le relais, toute la production d'information. Offrent de vraies rémunérations, mais elles sont beaucoup moins fléchées vers les rédactions, ça c'est clair.
Bon, eh bien, nous allons marquer une courte pause musicale avant de se retrouver. On écoute un petit peu de rap US, Reggie Snow, ça date de 1992, et on se retrouve juste après.
Dreams,
92 kids,
92 queens,
92 kings,
92 boys,
92 girls,
92 beats,
a 92 world.
Just a black niggar smoking my cigar. Puff, puff, that's that shit. Was born in 92, she was 86. I mean 93, she Jamaica brother stiff. Dark blue eyes, caramel lips. Mama was the preacher, daddy kinda rich. The year of 92, I mean 93. This little boy Reggie, the birds and the bees. 3 was the age, and read it from the page. Confusion occurred, and daddy got rage. Back in 92, Dr. Dre came. The chronic in my room, daddy would play. I started making raps around 98. When Big L died, the Lord give and takes away. The greatest of the greatest, the worst of the worst.
Fall in love way too easily. used to treat them nice, and now I treat them like they're treating me. But this isn't me eagerly, cause I'd rather retreat up where the sweeter be. But if it's unrequited, then it's right for me to flee the scene. Like 96, seems my daddy might have dipped, and that was it. Me, I was two, so now I couldn't give a shit. But better few when the clever grew, stepping out askew. He was bruising to prove the news, never show him up if I did. I never wanted to tell the honest truth when he would ask me. Silent sitting in car seats while he's hitting the palm trees. I'm with him and he'd be steady grinning. The lights reflecting off his gold teeth are blurring my vision, but the walls continue spinning, playing the victim. That was his position. Hear him speaking some wisdom to women without any vision. Mama wishing, sat reminiscing, she couldn't kiss him. The truth is, he was still useless, we wouldn't miss him.
Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel Sortez et nous sommes toujours avec Didier Desormeaux pour parler de journalisme, de méthode, voilà, du journalisme que l'on a évoqué juste avant la pause musicale. Et donc dans votre livre Des faits à l'info, le journalisme à l'usage de tous, l'image, la vidéo est au centre du livre, et l'image, la vidéo sont aussi au centre des médias aujourd'hui. Elles se trouvent sur toutes les plateformes, et elles sont donc au centre de ce livre. Est-ce qu'on peut dater peut-être pour faire rapidement un peu d'histoire l'arrivée de la vidéo en masse comme ça dans les médias?
Oui, l'arrivée en masse, elle est récente, hein, là, à peine 10 ans. C'est quand il y a eu quand on a pu transporter l'image à travers les différents canaux de distribution, puisque Internet est resté sans image assez longtemps. Il y a à peine 10 ans, hein, puisque là, le surgissement vraiment de la possibilité à haut débit, hein, c'est quand on a changé tous nos câbles, etc., où tout le monde y est passé, et qu'il y a eu tout d'un coup cette possibilité de voir des images, et surtout des images de très bonne qualité, de qualité professionnelle. C'était un bouleversement fondamental, et ça fait surgir l'image comme principal support d'accès à l'information. Alors là, c'est un vrai bouleversement, puisque c'est devenu une source d'information. Alors qu'auparavant, elle était exceptionnellement source d'information, et elle était surtout complément de l'information ou illustration de l'information, ce qui est pas la même chose.
Alors justement, l'image, elle aussi n'échappe pas au complotisme, parce que vous avez travaillé sur le complotisme. À quel moment une image devient une fausse information? Comment on peut la repérer? Parce qu'on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais circulent dans les mêmes canaux d'information, au même niveau hiérarchique finalement, des informations qui sont vérifiables, qui sont faites par des journalistes, mais aussi des fausses informations complètement complotistes.
Avant que l'image ne domine, hein, parce que je crois que comme source secondaire d'information par YouTube, c'est 60%, hein, donc c'est énorme. Hein, c'est-à-dire que principalement, tout le monde ne se tient au courant de ce qui se passe dans la journée qu'en voyant vite fait sur YouTube des images qui surgissent de l'actualité. Et c'est un bouleversement profond, puisque l'image va... Auparavant... Les théories complotistes existent depuis presque la nuit des temps, hein, on va dire, depuis très très longtemps. Mais ces théories-là ne se diffusaient que de manière livresque, ou c'était essentiellement par le texte. Voilà, ça passait, il y avait peu d'images, sauf qu'il y avait quand même toujours le décryptage de systèmes de signes, hein, puisque de tout temps, les complotistes classiques, on va dire, s'attachent à débusquer des signes qui pourraient renvoyer à une réalité parallèle. Mais c'est vrai que du fait que tout maintenant passe par l'image, ça a permis à ces théories de se surdévelopper, et effectivement d'arriver à un statut égal, vous avez raison de le dire, à celui des canaux classiques. Tout simplement parce que la qualité des images et la possibilité de travailler sur les images, c'est-à-dire de faire du montage avec des outils extrêmement simples et accessibles à tous, y compris aujourd'hui sur un téléphone portable, ça donne cette opportunité de, d'être à égalité finalement avec les canaux plus rigoureux, on va dire, journalistiques classiques.
Alors, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé une photo qui date de la guerre de sécession, où on y voit le général Ulysse, donc pendant cette guerre de sécession, qui est mis sur un champ de bataille, et on y voit très clairement, notre œil, nous, est habitué maintenant à l'image, donc on peut décrypter facilement que c'est un montage, mais finalement, ça nous, je pense aussi aux photos de Staline, où on voit petit à petit les gens qui disparaissent durant les purges.
Qui étaient gouachés.
Voilà, mais finalement, l'image a toujours été aussi source de désinformation.
Oui, depuis, l'image est depuis son origine est source de mensonges, de désinformation, de trafic, tout simplement parce que l'image a une force formidable, c'est-à-dire que elle joue sur l'émotion et elle est vue instantanément, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas de réflexion, de comparaison avec un discours, elle est reçue immédiatement. Mais depuis qu'on fait des peintures allégoriques, et tout le 19e siècle, mais même avant, Louis XIV sur son cheval, avec les pattes qui n'allaient pas dans le bon sens, ça a déjà été fait. Donc elle a à la fois une formidable puissance d'authenticité et une capacité à développer le mensonge qui est sans commune mesure. Donc oui, c'est préoccupant parce que c'est pour ça que l'image ne peut pas être le seul vecteur d'information. Sinon, c'est extrêmement réducteur et ça peut être trompeur.
Alors justement, sur cette authenticité, il y a encore une anecdote moi qui m'a marqué, que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps. C'est le philosophe Étienne Klein qui l'a mis en avant, qui pointe le fait que la Flat Earth Society, donc la Société de la Terre plate, a été créée dans les années donc, 60, suite quand même aux publications des premières photos de la Terre par la mission Apollo. Donc une image qui montre totalement en fait quelque chose de vérifiable et est totalement repris d'un seul coup et totalement contesté. Comment on peut expliquer cette contestation de l'image?
Alors ça, c'est peut-être je connais pas qui exactement dès le départ a contesté la version des premiers clichés de la NASA, etc., ou des soviétiques, mais je pense que là, on a affaire à un présupposé, c'est-à-dire qu'on a un tel socle, alors ça c'est une caractéristique complotiste, c'est-à-dire qu'il y a un tel socle de convictions, et même au-delà des convictions, sans doute de croyances, que de toute façon, quoi qu'on montre, va rentrer à l'intérieur de ce gabarit pour pouvoir en déduire que même si certains veulent nous faire croire que la Terre est sphérique, elle est ronde, elle est toujours plate, et il suffit de voir, de toute façon la photo elle est en deux dimensions, donc elle n'est pas en trois. Donc peut-être qu'aujourd'hui avec les hologrammes ça changerait un peu, mais à l'époque on n'avait qu'une version plate de la Terre ronde, donc c'est compliqué, mais ça c'est un vieux débat. Hein.
Alors, on sait aujourd'hui que, pas forcément que d'aujourd'hui d'ailleurs, que les théories complotistes sont aussi le fait de biais cognitifs, hein, de pièges que nous tend notre cerveau. Est-ce que l'image nous met à l'abri, tout simplement parce qu'on la voit et qu'il n'y a pas forcément, comme vous l'avez dit, un temps de réflexion, nous met à l'abri de ces biais cognitifs ou alors finalement pas forcément?
Non, pas forcément. D'ailleurs, l'exemple que vous avez cité avant, il montre ça assez bien, puisque de toute façon, le regard que je vais reporter, il va être... mon œil va chercher à avoir confirmation, sans doute. Alors les biais classiques, hein, les biais cognitifs classiques de confirmation, la quantité également. S'il y a beaucoup d'images qui représentent la même chose, ben, je vais finir par me croire qu'elles sont vraies.
La négligence du taux de bâche de l'échantillon.
Voilà, donc bon, elle ne préserve pas de... Elle ne préserve pas de ça. Et en plus, je pense qu'il faut ajouter que l'image, elle est universelle, elle passe pas... vous montrez une image sur Internet et qu'on soit, je sais pas, au Japon, qu'on soit en France ou en Afrique, elle est vue partout sans la traduction. Hein. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue.
Bon, alors je réagis brûle pour point, puisque là, on parle d'un envahissement de l'image. Quel avenir pour des médias sans image? Je pense à la radio, bien sûr.
Oui. Quel avenir pour les médias sans images? Ben, bizarrement, la radio se porte bien. Je pense que la radio, elle a certaines qualités de l'image, hein, dans le côté accès direct de l'information au creux des oreilles sans le passage par le décryptage, un décodage d'un texte. Donc ça, je crois que c'est important. Elle porte beaucoup d'émotions et en même temps, elle a quelque chose qui correspond à l'écriture, c'est qu'il faut du temps. Alors que l'image, elle est vue instantanément. L'image, elle est en, je ne sais plus, c'est un centième de seconde, on perçoit la signification d'une image. Quand je parle en ce moment, c'est sujet, verbe, complément, etc. Elle a quand même, on va dire, ce sérieux du discours classique, voilà, tel qu'il se déroule à l'intérieur d'une phrase, d'un texte. Il y a une organisation. Le problème avec l'image, c'est qu'elle est avant tout émotionnelle. Même si il y a une grammaire de l'image, bien entendu, hein, ne me faites pas dire ce que il y a une grammaire de l'image assez rigoureuse qu'il faut apprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on développe dans notre livre, hein, dans l'ouvrage. On dit bien le journalisme vidéo à l'usage de tous. On revient là-dessus. On dit mais attention, l'image c'est un vrai discours et on peut tout à fait. Nous on est des amoureux de l'image, hein, on y croit à l'image, mais justement il faut pas dévoyer l'image en ne prenant que son aspect le plus facile, enfin le plus dévoyé, le plus facile et le plus usé.
Alors peut-être aujourd'hui d'ailleurs sur tout simplement l'image, toutes les images que l'on voit, même je pense notamment à la photo, il y avait la photo du président à l'Élysée qui avait fait beaucoup parler, et on voit toutes les métadonnées en fait de la photo qu'il y a à côté. Bon, elle est évidemment beaucoup retouchée, comme toutes les images, voilà, de ouais. Personnalités comme ça. À quel moment retoucher sans cesse comme ça une photo, ça a un impact sur la véracité de l'image ou non?
Non, ça. Après, on retrouve l'allégorie, voilà, comme on en trouvait en peinture, c'est-à-dire que au bout d'un moment, effectivement, on s'éloigne de la réalité, plus on retouche l'image, plus. Et encore, même l'image, même brute en tant que telle, ce n'est pas la réalité. C'est un angle, c'est une manière de voir la réalité. Effectivement, si en plus on la retouche, on va s'éloigner encore plus. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des outils aujourd'hui, c'est ce qu'on explique dans le bouquin, où on peut décrypter ce travail. On peut l'analyser, on peut le débusquer, savoir si elle a été retouchée ou pas, ou trafiquée. Ça, heureusement, l'AFP a développé des outils vraiment intéressants, hein, comme InVID. Enfin, maintenant, vous allez sur Internet, vous pouvez très, très facilement voir à quel type d'image vous avez affaire sans difficulté.
Bon, il y a des outils, il y a aussi notre œil aussi, peut-être pour des choses assez oui. simples qu'on peut essayer de travailler nous-mêmes, hein, en tant que citoyens.
Oui.
Peut-être, et ça pose aussi la question donc de l'éducation aux médias.
Voilà, de l'éducation aux médias et à l'image, justement. Et alors déjà, de l'éducation aux médias, on en parle, mais alors, l'image, ça reste encore un parent extrêmement pauvre, alors qu'il y a eu des travaux extrêmement riches, extrêmement intéressants, que ce soit aussi bien en matière de cinématographie que de sémiologie, pour comprendre comment fonctionne une image, pourquoi elle va me sensibiliser, pourquoi elle m'intéresse, pourquoi je vais être attiré par cette image, ou au contraire, pourquoi je vais être indifférent. Donc ça, il faut le développer, c'est sûr.
Alors, est-ce que les journalistes sont vraiment les mieux placés, les plus objectifs pour faire de l'éducation aux médias et à l'image?
C'est le débat d'aujourd'hui, notamment suite au rapport...
Ça va, je ne vis pas que dans les années 90.
Ah non, c'est si vous prenez tout le... Si vous avez vu au moment de la publication du rapport Bronner, qui est sorti il y a quelques semaines, vous avez un accès sur... allez-y, c'est passionnant. Ils ont mis en ligne tous les entretiens avec les gens du CLEMI, par exemple, qui travaillent sur l'éducation aux médias, y compris les responsables de Facebook. Tout le monde est là, absolument. Et effectivement, est-ce qu'on peut faire confiance aux journalistes pour l'éducation aux médias? C'est une question aujourd'hui pivot. Hein, je crois que c'est une des questions les plus importantes aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour éviter qu'aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, il y ait des journalistes qui rendent service ou qui aiment bien passer du bon temps avec les gamins pour expliquer comment on fait de la télé, de la presse écrite ou de la radio, va y avoir une sorte de certification qui va avoir des exigences pour dire, voilà, si vous voulez... si vous voulez enseigner ou intervenir dans la semaine de la presse à l'école ou ce genre d'événement, eh ben, il faudra maîtriser un certain nombre de, ben, là aussi, de techniques et méthodes, y compris pédagogiques, pour être sûr que le message que vous avez à faire passer, il est correct. Et c'est une sorte de reconnaissance. Je crois même qu'il est prévu un DU, un diplôme universitaire d'éducation aux médias et à l'information, pour organiser ça. Parce que jusqu'à maintenant, et je vois le sous-entendu de votre remarque, c'était un peu du bric-à-brac, où on avait des gens sympas qui venaient et d'autres complètement à côté de la plaque pour parler devant les élèves. Hein. Ça, on a tous connu ça. Mais je pense que là, il y a la volonté. Et Rapport Bronner a vraiment insisté là-dessus, c'est qui est le plus habilité, mais même au sein de l'éducation nationale. Est-ce qu'on doit parler des médias? Est-ce que c'est le prof d'histoire G? Je crois que pour l'instant, ce sont les professeurs en documentation, hein, puisque c'est le statut de documentaliste qui permet qui est maintenant un statut de professeur. Mais c'est très flou. Et je pense qu'en même temps, il faut garder une certaine interdisciplinarité parce que un prof de français peut avoir des choses à dire, y compris un prof de maths, après tout, si on parle de programmes, voilà, des algorithmes. Enfin, tout le monde est intéressé. Donc, je sais que le débat, il existe dans l'éducation nationale.
Et puis, bon, cela dit, il faut quand même l'admettre. Peut-être que certains et certaines journalistes ont regardé l'éducation aux médias avec un certain dédain. Pour d'abord de dire que c'était un truc avec les gamins, là, bof. Moi, journaliste, je ne vais pas m'abaisser à ça. Malheureusement, il y en a quelques cas. Et donc, de dire est-ce que cette façon de considérer les choses, ça entre pas aussi parfois dans le discrédit qui est donné aux journalistes. De se dire, bah, c'est des gens un peu sur leur piédestal. Et du coup, de...
Ouais. Oui, moi je n'ai pas vu beaucoup, pour avoir fait quelques interventions dans les collèges et lycées, généralement je me suis retrouvé aux côtés de gens extrêmement passionnés, qui faisaient vraiment passer mais il peut y avoir, vous avez raison, hein, je pense qu'il peut y avoir des expériences catastrophiques. Alors si vous prenez une expérience catastrophique, plus une génération, alors je ne veux pas pointer une génération d'enseignants, mais beaucoup d'enseignants étaient très dans la critique des médias en disant voilà, ça existe moins aujourd'hui, mais il y avait une espèce de concurrence, hein, entre l'enseignement, l'école et puis la presse, qui faisait que il y avait un dénigrement en disant de toute façon ils vous manipulent, etc. Enfin, moi j'ai un peu connu ça dans ma jeunesse et je pense que ça durait encore un certain temps. Il y avait une critique d'origine
supplétive du système,
voilà, entre journalistes et enseignants, et ça on le paye aujourd'hui, je crois, beaucoup dans cette défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis des médias, en disant de toute façon ils nous manipulent tous, pour qui travaillent-ils et pour qui se prennent-ils. Je dis souvent, je suis prêt à reconnaître que les journalistes se comportent pas toujours très bien.
Alors si on suppose la création d'un marché de l'éducation aux médias, c'est-à-dire qu'il y a plein de structures, donc de journalistes et de pas journalistes, qui vont s'en emparer. Mais justement, comment vous parlez de la création d'un DU oui. Pour encadrer ce marché de l'éducation aux médias, mais quelle place pour des médias associatifs locaux? Je pense à des radios associatives.
Mmh. Alors, d'après ce que je crois savoir, effectivement, l'éducation aux médias et à l'information, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui, qui va exiger des moyens très importants, qui vont déjà être donnés, hein, j'ai l'impression, puisque le rapport Bronner en parle beaucoup, c'est quand même une décision de la présidence, voilà, donc c'est quelque chose qui va engager beaucoup de moyens. Et moi, dans tout ce que j'ai vu sur cette question, il y avait quand même la volonté d'intégrer tous les partenaires, hein. Il n'y a pas simplement... que le Clémy ou le réseau Canopée ou voilà, et puis les grands médias, je pense, et que tout le monde, y compris les radios associatives ou les journaux associatifs, vont être impliqués dans cet enjeu. Je crois qu'il est, enfin, ça paraît absurde de ne cantonner ça qu'à certains types. Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, il y avait cette volonté de vraiment intégrer tout le monde. L'idée de la certification, il y a l'axe du DU, mais il y a aussi, ça se fait avec une autre instance, cette labellisation d'enseignants. Et je pense après, c'est les chefs d'établissement dans les écoles, les directeurs d'école, qui vont être responsables de ça et qui vont pouvoir établir comme ça des priorités pour intervenir chez eux. Mais tout ça, ça va s'organiser, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'était très flou.
Bien écoutez, merci beaucoup. Nous sommes pris, malheureusement, par le temps. Et, voilà. Et bien écoutez, je vais vous remercier d'être passé au micro de Radio Campus Tours.
C'était un plaisir et je peux répéter, le journalisme, c'est un métier magnifique.
Voilà, et puis voilà, donc votre livre... On rappelle Des faits à l'info, le journalisme à l'usage de tous. Et puis, je rappelle aussi Mélissa, dans la Méridienne de 11h à midi. Voilà. Je
fais un petit peu. Merci.